Au-delà du live, le décryptage mensuel de l'actu numérique.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 40 d'Au-delà du live, votre revue d'actualité mensuelle sur le numérique. Je suis encore et toujours en compagnie d'Alain Garnier. Alain, comment ça va ?
Écoute, salut Benoît, écoute, grande forme pour ce numéro 40. Écoute, ça va être les 40e rugissants.
Oui, exactement. Déjà 40 épisodes, hein. ça fait un petit quelque chose, hein, les dizaines, comme d'habitude. Ce sera pareil, encore pire, je pense, pour l'épisode 50. Mais pour l'heure, on est au 40e épisode. Très content de t'avoir avec moi, comme d'habitude. On va voir, chers auditeurs, aujourd'hui, comme d'habitude, toute l'actualité numérique du mois de mars 2024. Et il s'en est passé des choses. Je vous propose de les découvrir rapidement avec le programme. Le thème à la une de ce nouvel épisode, c'est la cybersécurité. Il s'est passé beaucoup de choses du côté de la sécurité numérique durant le mois de mars, avec trois sujets d'actualité différents autour du thème de la cybersécurité. Donc voilà, on vous a préparé un petit programme bien copieux. Donc tout d'abord, l'ANSSI qui constate un regain du nombre d'attaques par rançongiciel et qui pointe une menace en augmentation dans tous les domaines. Il y aura également une affaire d'ingérence, en tout cas plutôt la crainte d'une ingérence étrangère qui inquiète fortement les autorités françaises à l'approche des élections européennes. Et on terminera avec un problème de cybersécurité affectant Microsoft. Voilà, c'est pas tous les jours dont on a l'occasion de dire ça, donc on en parlera rapidement avec Alain. Il y a deux autres sujets qui vont compléter cet épisode. On vous parlera avec Alain notamment de l'ambitieux plan d'investissement qatari qui cible les nouvelles technologies en France. Et on clôturera enfin cet épisode avec l'importance grandissante des citizen developers, qu'on appelle également les business technologistes, et qui sont des profils de plus en plus recherchés au sein des organisations. Voilà pour le programme. Alain, est-ce que tu es prêt ?
Bah, je suis prêt.
Eh bien, écoute, au-delà du live épisode 40, c'est parti. Alors, le sujet à la une de ce nouvel épisode, c'est la cybersécurité, un sujet qu'on aborde d'habitude plutôt en filigrane dans au-delà du live. Hein. Je n'ai pas souvenir qu'on en ait fait un sujet vraiment central, mais on a tenu à le mettre en avant aujourd'hui, puisque des sujets d'actualité autour de la cybersécurité, il y en a eu. On commence avec l'ANSSI, donc l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui observe depuis peu un retour en force des rançongiciels. Donc, pour rappel, un rançongiciel, c'est un logiciel malveillant qui bloque l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers précis et qui réclame à la victime, donc bien souvent des organisations, le paiement d'une rançon pour en obtenir de nouveau l'accès. Donc on constate une augmentation de ce type d'attaque de 30% depuis peu. Et on précise qu'il s'agit uniquement des attaques dans l'organisme à connaissance et non pas du nombre total de cyberattaques en France, hein. Donc ça vous donne une idée. Depuis 2020, les trois principales victimes de rançongiciel, de ransomware, n'ont pas bougé. C'est toujours les TPE, les PME et les ETI. Suivent ensuite les collectivités territoriales et les établissements de santé à égalité avec les entreprises stratégique. Ça, c'est le premier sujet d'actualité. Mais le deuxième sujet, en fait, vient directement le compléter, puisque cette augmentation, en fait, d'attaques cyber, elle intervient dans une situation géopolitique qui est quelque peu tendue, puisque les autorités françaises s'inquiètent de plus en plus de possibles manipulations étrangères en France lors des élections européennes. Les habitants des 27 États membres de l'UE, de l'Union européenne, se rendront aux urnes pour élire leurs eurodéputés en juin prochain. Donc des élections aux enjeux stratégiques très importants. Le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale alerte d'ailleurs spécifiquement sur les menaces hybrides, c'est-à-dire, je cite, « celles que l'on ne peut pas attribuer, que l'on ne voit pas du premier coup, qu'il s'agit de cyberattaques, de désinformation, d'offensive générale contre notre sécurité économique ». Alors Alain, les attaques par rançongiciel, donc elles augmentent significativement. J'ai vu un autre article qui disait que les cyberattaques sont en hausse depuis le début de la guerre en Ukraine. On redoute fortement des ingérences étrangères durant les prochaines élections. J'ai l'impression que la cybersécurité, elle a rarement ou en tout cas jamais été mise autant au premier plan, aussi bien du côté des professionnels, donc des organisations, que du secteur public avec les autorités gouvernementales. Comment est-ce que toi, tu perçois toute cette situation qu'on est en train de traverser ?
Ben malheureusement, les luttes du bien contre le mal dans toutes les belles histoires qu'on a, que ce soit des romans ou des films de super-héros, viennent toujours à un moment donné se rencontrer. Et le mal, en fait, il se loge là où il y a du pouvoir. Ce qui nous arrive, c'est juste, j'ai envie de dire déjà, le fait qu'il y a une prise en compte profonde de la part des criminels, au sens large, criminel d'État ou criminel privé, que l'espace numérique est sans doute aujourd'hui le plus intéressant. Finalement, dans l'ordre, il vaut mieux aujourd'hui faire de la cyber depuis des bureaux bien planqués, que ce soit pour déstabiliser un État, plutôt que d'envoyer des chars et de la chair à canon, parce que ça, c'est quand même compliqué, puis c'est pas forcément acceptable par les populations, hein, même dans des dictatures. Et de l'autre, bah effectivement, il vaut mieux finalement aujourd'hui à nouveau avoir un ordi et avoir un rançongiciel. C'est aussi moche que c'est méchant, hein, le rançongiciel. Vraiment. Hein, tu vois, c'est moche et méchant. D'aller acheter des bas et un flingue pour aller faire un braquage de banque où il n'y a même plus de billets, quoi. Tu vois ? Donc, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Déjà, faut ramener ça donc ça ne fera qu'augmenter. Parce que, d'une certaine manière, et ça vient se rajouter. Il ne faut pas oublier que, par exemple, pour la déstabilisation, alors c'est intéressant, tu vois, on a préparé au-delà du live, entre-temps, il s'est passé un événement concret autour, par exemple, de la déstabilisation. Venant de Chine, le candidat Glucksmann, hein, Raphaël Glucksmann, est victime en ce moment d'une déstabilisation sur le fait que, avec des fake news, comme quoi il appartiendrait à la CIA. Et donc, ça a été démantelé d'ailleurs par l'organisme d'État Viginum qui surveille ces éléments-là. Et donc, il y a un démenti, je l'ai même entendu encore ce matin. Hier, il y avait son porte-parole. Donc là, on est vraiment dans l'actualité. Hein. Et quand on sait que ce qui s'est passé, par exemple, l'histoire des punaises de lit, on en avait parlé, ça, tu te rappelles, les punaises de lit, quand même, sujet clé, est en fait un sujet qui a été monté en épingle par justement des. On va dire des comptes russes, et il y a des milliers de comptes qui sont construits pour ça, on se dit que tout d'un coup, ça finit par passer aux 20 heures, c'est que les Français avaient l'impression qu'il n'y avait que ça. Donc on voit l'impact que ça peut avoir, et donc là, c'est pareil, la déstabilisation concernant les partis politiques. Et je finirai juste en disant que ça s'additionne, c'est-à-dire que à l'insécurité physique se rajoute l'insécurité numérique. Voilà, il y aura aussi des guerres, mais aussi des guerres d'influence, sans doute plus fortes, et que sur la question de la défense cyber côté entreprise plutôt, parce que les États, l'État fait son job, il y a des démentis, etc. C'est plutôt la question de la défense, et les entreprises doivent se préparer à tout simplement gérer des attaques, gérer des crises, mettre en place ce qu'on appelle des PRA, des PCA, donc des plans de reprise d'activité, des plans de continuité d'activité, dans lesquels il va falloir s'organiser dans le cas où on est victime, parce qu'à un moment donné, ça peut arriver. Hein, c'est comme ça nous tous arriver un jour d'être volé chez soi, malheureusement, ça arrive souvent. Comment on s'organise derrière ? Voilà. Et je voudrais juste citer, nous, des collègues dans le domaine qui font ça, par exemple les gens d'Alciconi, hein, qui sont des gens qui gèrent les crises. Hein, donc si vous voulez réfléchir comment mettre en place une crise en amont et justement pas être pris au dépourvu, ils vous aident. Les gens d'Orange Business aussi, cyber, qui font ça, qui mettent en place des PRA et des PCA, ou par exemple les gens d'AISI. Donc je fais un peu de pub, hein, aujourd'hui, parce que dans la cyber, il faut aussi avoir des gens de confiance. Donc là, ce que je vous cite, c'est des gens de confiance. Je salue d'ailleurs mon ami Miguel Oliveira qui avec AISI défend tous les jours des boîtes qui ont été attaquées, qui sont au tapis, qui sont et qu'il faut relever, parce que c'est aussi un gros traumatisme pour les entreprises, il faut pas oublier.
Merci Alain. Il y a aussi du côté des organisations la question assez centrale des outils, je pense. C'est un autre sujet, c'est pas un sujet d'actualité, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais que les organisations qui ont adopté le travail hybride, hein, c'est le mode d'organisation, le mode de travail qui est aujourd'hui le plus adopté, hein, ce mélange entre justement le télétravail, le travail à la maison, le home office et le travail en présentiel, tout ça, ça multiplie les terminaux, les points d'accès en fait au système d'information des entreprises. Donc, il y a aussi la question centrale des outils qu'il faut...
Alors, les outils et les personnes, parce qu'on parle souvent, en fait, les logiciels rentrent souvent par ce qu'on appelle un élément social. On va trouver, par exemple, le compte de quelqu'un. On va pouvoir faire croire à quelqu'un que... l'autre fois, j'ai vu carrément un deepfake dans lequel tu avais carrément une visio en temps réel avec trois membres du board. Imagine-toi, tu es DAF, d'accord, tu t'occupes des finances, et tu as une visio qu'on te demande en urgence, tu as les trois membres du board, le président, celle qui s'occupe des RH et celui qui s'occupe de la... Je ne sais plus quel était le troisième, mais qui a un rapport dans l'organisation, qui sont en fait faux en temps réel et qui disent, bon là, on a vraiment un problème, il faut faire ci, il faut faire tel virement, vous savez, l'arnaque au président, mais arriver à faire un deepfake avec trois membres du board. Donc là, on voit que c'est la technologie, elle est au service, pour le coup, du mal et du vice, ça c'est clair. Je ne partirai pas de ce live sans citer aussi ExaTrust, sinon ils vont me tuer.
Oui,
Jean-Noël de Galzin, je le vois déjà, si je l'oublie. Donc évidemment, ExaTrust, le lieu où il y a effectivement les acteurs de la cyber. Et pourquoi est-ce qu'effectivement c'était le mois de la cyber? Il ne faut pas oublier qu'il y avait le FIC, hein, le Forum in Cyber, qui a lieu tous les ans à Lille. Là, c'était au mois de mars, hein, fin mars, qui regroupe tous les acteurs de la cyber. Donc oui, on était bien dans le mois de la cyber.
Alors justement, un autre sujet lié à la cybersécurité, Alain, et pas des moindres quand même, hein, parce que j'ai pas souvenir d'avoir lu ça vraiment très très souvent, pour dire le moins. Microsoft Exchange Online, qui est le service de messagerie hébergé du géant américain bien connu, a été victime d'une campagne de cyberespionnage par Storm 0558, qui est un groupe de cybercriminels qui est, en tout cas un groupe, affilié à la Chine. Mmh. Donc Microsoft avait reconnu cette infiltration dans son service de messagerie en juin 2023, donc c'est pas quelque chose qui vient de sortir, où voilà, tout le monde est stupéfait. Le piratage en question visait les boîtes mail de 22 organisations et de 500 individus dans le monde, dont de hauts responsables politiques américains. C'est le Cyber Safety Review Board qui a été mandaté, je crois, directement par Joe Biden, hein, qui leur a demandé d'enquêter justement sur cette affaire et qui a rendu un rapport qui s'est montré sévère à l'encontre de Microsoft, en estimant notamment que l'intrusion était évitable. Il pointe en particulier, je cite, une série de décisions opérationnelles et stratégiques mettant en évidence une culture d'entreprise et une gestion des risques en contradiction avec le niveau de confiance que les clients accordent à l'entreprise pour protéger leurs données et opérations. Le plus inquiétant qui est pointé par le CSRB est que l'entreprise américaine, apparemment en tout cas, je suis toujours prudent sur ce genre d'informations, mais ne sait toujours pas à date comment le groupe chinois a pu infiltrer ces systèmes. Donc, c'est pas tous les jours que les systèmes de sécurité d'une entreprise comme Microsoft, sont infiltrés et aussi critiqués. En plus, on parlait justement de ces affaires, de ces risques d'ingérence. Bon, bah là, visiblement, ça semble clair. Comment est-ce que tu perçois ça?
Alors, j'ai pas du tout la même lecture que toi, hein, Benoît, excuse-moi, mais on est là pour débattre. Hein. C'est pas tous les jours, mais enfin, c'est toutes les semaines, hein, qu'il y a des failles de sécurité chez Microsoft. On peut reprendre le point par point, hein, mais par exemple l'année dernière il y avait SolarWinds dans lequel ils avaient été infiltrés très profondément, on en avait parlé d'ailleurs dans ce live, dans lequel leur système de prod, de ce qu'on appelle CI/CD, c'est-à-dire la production de code elle-même avec un système de déploiement et de sécurisation, était lui-même vérolé, d'accord, et là aussi à l'époque c'est un peu comme là, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu à un moment donné quand même un peu une surprise vis-à-vis de ça. Donc moi, comme je dis, je tire pas sur les ambulances, d'accord ? Microsoft est une boîte qui fait un gros job sur le sujet et qui est sans doute aussi une des boîtes, parce qu'elle est aussi dominante, hein, je leur reproche souvent d'être trop dominant, et d'ailleurs, on en revient bien à ce problème-là, et donc c'est un point d'accès, évidemment, pour tous les... quand on veut attaquer là où il y a le plus d'utilisateurs, on attaque Microsoft. Tu vois, c'est logique. Si tu veux rentrer là où il y a le plus de comptes, tu veux rentrer là où il y a... Donc, ça fait partie, effectivement, des problèmes des dominants. Voilà. C'est pour ça que moi, je dis toujours que si on a plus de boîtes équilibrées, les attaquants auront... c'est plus difficile.
Il y a moins
de risques.
Voilà. Ils sont moins exposés. Ouais.
Voilà, c'est le problème du SPOF, du Single Point of Failure. Quand il y a un seul composant, s'il devient faible et que tout le monde est touché, tout le monde sera touché. Donc, moi, je ne vais pas tirer sur l'ambulance et je n'irai pas à dire « Microsoft ne fait pas son job ». En revanche, j'irais juste rappeler que oui, là, enfin, la parole se libère. Peut-être que Microsoft, par contre, a une image beaucoup trop positive sur le côté cyber que ce qu'il est réellement. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai des DSI qui disent « Non, mais tu comprends que Microsoft, je suis protégé, t'imagines pas tout ce qu'ils font ?» Ok, voilà, un exemple. Voilà. C'est-à-dire que si on regarde l'impact de ce qu'ils peuvent produire par rapport au nombre d'utilisateurs, faudrait peut-être juste ramener un peu d'humilité, tu vois. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas que Microsoft ne fait pas son job, mais j'aimerais qu'on arrête de dire « Non, mais il n'y a que Microsoft qui fait son job, il met des milliards, tu comprends ?» Parce que là où il met de l'argent, c'est beaucoup dans le marketing aussi. D'accord ? Pour dire que ces systèmes sont sécurisés. Et pour justement faire des communiqués après extrêmement sibyllins en disant « Oui, nous avons vu qu'il y avait un sujet, on va s'en occuper. » Mais en vrai, ce serait une boîte plus petite, elle exploserait en vol. Donc, moi, c'est plutôt ça que je trouve. Je sais que les cyniques et les vieux diront « Mais c'est normal, c'est comme ça, Alain, c'est normal, tu comprends. Quand il y a un puissant, on n'ose pas, et puis en fait, on ne dit pas les choses. » Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu d'équité sur l'analyse cyber de tous les acteurs. Et donc, non, ce n'est pas vrai que les grands sont plus safe parce qu'ils mettent des milliards. Parce que d'un autre côté, ils sont plus fragiles, il y a plus de gens qui les attaquent, ils ont plus aussi de problèmes process internes parce que ce n'est pas des équipes à taille humaine. Voilà. Donc après, le risque humain, il devient multiple. Multiple, voilà. Parce que plus on a de personnes, plus on a un risque humain, en fait. Tu vois, voilà. Et je voudrais juste qu'on rééquilibre ça, qu'on arrête de dire que c'est les grands qui sont mieux protégés. Voilà, parce que ce n'est pas vrai.
Ouais, c'est intéressant parce que c'est ce que pointe aussi le CSRB, donc l'organisme qui a mené l'enquête, c'est de dire il y a une contradiction flagrante entre justement la gestion des risques, la culture d'entreprise de Microsoft par rapport à la cybersécurité et le niveau de confiance que les clients accordent. C'est ce que tu disais.
C'est ce que je dis, voilà. Et encore une fois, je pense qu'il faudrait plutôt aussi que les clients réfléchissent au niveau de confiance qu'ils leur accordent. Voilà, je suis plutôt, tu vois, plutôt que de dire Microsoft ceci, Microsoft cela, c'est plutôt à dire aux clients de Microsoft, n'imaginez pas que vous êtes aussi bien protégé que vous imaginez. C'est ça le point. Mais ça ne veut pas dire que, pourtant, il faut qu'ils paniquent. Il faut qu'ils arrêtent de penser qu'ils sont « Ah, ben, je suis dans le numéro 1 donc, mondial, donc je suis sauvé. » Voilà, c'est tout.
Ce qu'on rappelle, aucun système, logiciel ou autre n'est inviolable. C'est exactement le principe de la cybersécurité, évidemment. Merci, Alain. Je te propose donc de sortir un petit peu de la cybersécurité. C'était très intéressant d'en parler pour notre sujet à la une. Donc, on laisse la sécurité de côté.
T'as payé la rançon pour qu'on sorte de la cyber ou pas ?
Écoute, j'ai pas encore reçu la lettre. Je sais pas si elle s'est paumée en cours de route. Écoute, pour l'instant, tout va bien. On m'a pas demandé de
somme. Il faut pas payer les rançons. Il paraît, il faut surtout pas payer les rançons.
Faut surtout, oui, exactement. Ça fait partie des choses à ne pas faire. Récolter les preuves également, regarder un petit peu, isoler les systèmes qui ont été affectés. Bon, on pourrait partir dans justement la checklist.
Désolé.
Voilà. Mais c'est un sujet passionnant, la cybersécurité. Il y a mille choses à aborder. Et je trouve que c'est quand même une bonne chose que de plus en plus d'organisations, en fait, prennent conscience, en fait, de l'importance de ce sujet-là. Mais en tout cas, pour le moment, on laisse le sujet de côté et on va s'intéresser à plutôt des investissements, à un plan d'investissement et pas n'importe lequel, celui du Qatar, qui est destiné au secteur des nouvelles technologies en France. C'est l'émirat du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Je m'excuse d'avance parce que j'espère que j'ai pas trop écorché son nom, qui s'est récemment rendu en France. Alors, petite parenthèse, c'est un petit événement parce que j'ai lu que c'était la première fois en 15 ans qu'un émirat qatari foulait le sol français. Et il s'est engagé à l'occasion de cette visite à investir une enveloppe de 10 milliards d'euros dans l'économie française d'ici 2030. Voilà une petite bagatelle, 10 milliards d'euros. Donc, je pense que c'est une autorité publique que le Qatar a déjà effectué de moult investissements dans notre beau pays. Donc, il y a évidemment le secteur du sport, il y a les transports, il y a également le luxe. Le pays du Moyen-Orient veut intervenir dans d'autres pans de l'économie française à présent, comme l'énergie, les semi-conducteurs, l'aérospatiale ou encore l'intelligence artificielle, donc différents pans du numérique français. Les relations commerciales, du coup, Alain, entre le Qatar et la France ne font que se renforcer. La question que je voulais te poser, c'est pas forcément bon, qu'est-ce que tu en penses, bien sûr, mais ça, c'est la question que je te pose à chaque fois, c'est est-ce que tu penses que, justement, les investissements que récupérer, bénéficier d'investissements étrangers, que ce soit du Qatar ou autre d'ailleurs, hein, c'est pas le problème, et ce dont le secteur du numérique français a besoin aujourd'hui pour se développer, est-ce que c'est sur la partie vraiment investissement que la France doit se concentrer si elle souhaite pouvoir répondre aux enjeux actuels et futurs du numérique ?
Ouais. Moi, je pense que c'est juste révélateur un peu quand on voit en même temps cet investissement du Qatar, d'accord, qui regarde en face, et lui, il regarde le turfu et il se dit « Ah là là, on va me couper le pétrole », en gros. Hein, en gros, c'est tout le monde veut des voitures électriques, c'est fini les voitures, et puis donc le pétrole, c'est mal, donc il faut l'arrêter. Le Qatar vit pratiquement exclusivement de ça, d'accord ? Ouais. Donc, il se dit, plutôt que de mettre justement l'argent du pétrole dans le sable, eh ben, on va investir sur les éléments du futur, dont le numérique. Rien que ça, c'est déjà extrêmement responsable de la part du Qatar en termes de pays. Okay. Après, tu me poses la question sur la souveraineté et la question que ça a à voir avec la France. Moi, j'aurais envie de te dire, c'est un peu comme la question tout à l'heure sur les équilibres. Moi, j'ai aucun problème que le Qatar ou d'autres pays investissent en France à partir du moment où la France investit en France. Le problème, c'est que dans le même temps, on a le gouvernement, par exemple, qui coupe, il fait une coupe budgétaire. Bon, ok. Et la première chose qu'il coupe, c'est quoi ? C'est pas justement les retraites des vieux, hein, qui est un truc non pas du turfu, mais c'est le numérique et l'écologie. Donc, oui. Pour moi, c'est des vases communicants pas positifs. D'une certaine manière, je pense qu'il faut absolument qu'on ait aussi des investissements forts européens, français, pour pouvoir accueillir des investissements qataris. Sinon, qu'est-ce qui se passe à un moment donné ? On sera tout simplement les vassals de X ou Y. Moi, comme tu l'as bien dit, je me moque un peu du pays. Ça peut être les Norvégiens, les Qataris ou les Néo-Zélandais. Hein. C'est pas le sujet. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention sur ça. Après, le problème, c'est que dès qu'on dit on fait attention, ah oui, vous fermez, c'est qu'on n'est pas assez proactif. Moi, je veux surtout qu'on soit offensif. Je veux qu'on investisse massivement sur le futur. Voilà. Les marges de manœuvre, en particulier de l'État, mais aussi des entreprises, devraient être clairement sur la partie numérique. C'est vrai aussi pour les constructeurs automobiles, plutôt que d'acheter du Google et de l'Apple. C'est vrai pour l'État, plutôt que de couper justement les investissements dans le numérique. Ils devraient justement plutôt couper. Bah oui, moi je le dis, par exemple, là, on est le seul pays, par exemple, où en équivalent de pouvoir d'achat, les retraités sont mieux traités que les actifs. Donc, je veux bien, on protège nos aînés. Moi, je vais devenir bientôt un aîné. Donc, tu vois, en plus, je parle pour ce qui va m'arriver, moi. Tu vois, donc, tu vois, je ne suis pas en train de... Il faut protéger les générations futures. Dans quel monde les aînés gagnent plus de leur retraite que les gens qui travaillent ? Et dans lequel, quand on coupe, on dit, ah ben, on va couper le numérique, on va couper les investissements, on va couper la recherche. Donc, c'est ça, en fait, notre sujet, tu vois. Les Qataris nous montrent juste qu'on est, nous, pas en train de regarder le turfu, on regarde le passé. Donc ça, c'est pas bon.
La question, c'est pas d'où vient l'argent, quel pays décide d'investir chez nous, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quelle est la stratégie, à quelle stratégie ça répond finalement.
Exactement. Et il faut se retourner vers le turfu.
Ouais. Ce qui me fait rappeler d'ailleurs, ce qui me fait penser à la phrase de Valentin Przyzulski, patron de Netframe, que l'on salue s'il écoute cet épisode et qui est dans Alternative Numérique, qui disait c'est toujours la question de la stratégie. Qui ne comprenait pas en fait où la France voulait aller justement par rapport au numérique. Donc voilà, ce que tu disais par rapport aux actifs, c'est...
On peut imaginer là où elle ne veut pas aller. C'est-à-dire qu'elle veut aller dans le luxe et dans le tourisme, mais pas dans le numérique. Et ça, moi je pense que c'est une erreur stratégique majeure.
Oui, parce que évidemment dire que le numérique, la recherche et l'écologie sont des sujets d'avenir, c'est un euphémisme. Vous en doutez.
Pas aujourd'hui pour les Français. Et le gouvernement qui les gouverne. Enfin, tu vois, c'est aussi ça qu'il faut voir. On s'insurge, mais ok, c'est ça qui va être coupé. Donc, ça peut pas être un euphémisme, tu vois. C'est qu'il y a des gens qui considèrent que non, c'est pas important. C'est pas important. Ça va se débrouiller tout seul. Voilà.
Ce qui crée de plus en plus un fossé entre les éditeurs de logiciels, ceux qui construisent le numérique français, et justement le gouvernement et le reste de la population qui considèrent que ce ne sont pas des sujets d'avenir, ou en tout cas que ce sont des sujets secondaires qu'on pourra traiter plus tard.
Exactement.
Merci Alain, je te propose de passer au dernier sujet, celui des Citizen Developers. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce nom, rassurez-vous, comme d'habitude on explique un petit peu de quoi il s'agit. Donc le Citizen Development, donc c'est un anglicisme, vous l'avez bien compris, qui désigne une approche nécessitant peu, voire même pas du tout, de connaissances en langage informatique. Les Citizen Developers, donc qui sont le plus souvent des utilisateurs métiers, sont ceux qui le pratiquent justement grâce aux outils low-code, no-code. Donc selon le cabinet Gartner, 73% des managers hors IT prônent une augmentation de ces profils au sein des organisations et 67% des dirigeants militent pour une technologie toujours plus embarquée au sein de l'organisation. Donc c'est, de ce que je comprends, c'est en fait le principe de l'IT ou de faire bouger les lignes de l'IT au sein de l'organisation, c'est plus l'apanage du service IT de la DSI, mais voilà, c'est des utilisateurs métiers qui n'ont pas forcément les compétences pour ça, mais qui peuvent le faire grâce au développement des outils low-code, no-code à ce niveau-là. Donc une hausse du nombre de citizen developers soulève forcément plusieurs points. Qu'est-ce que ça implique au niveau du système d'information de l'organisation, le rôle de la DSI dans tout ça, sans oublier bien sûr la question, bah, je viens de le dire, hein, la question centrale des outils, hein, parce que si vous n'avez pas de connaissances en codage, c'est bien, mais il vous faut les outils qui vont vous permettre justement d'avancer sur ces sujets-là. Donc Jean-Luc Coisnon, qui est senior partner de Gartner, qui explique même, je cite, « La vraie question, c'est celle des outils qu'on met entre leurs mains et qui ne mettent pas en péril le SI. La finalité n'est en effet pas de favoriser l'accroissement du shadow IT. Cela passe par la création de fondations, un bien commun, et même par l'adoption de nouvelles manières de travailler. Il ne faut surtout pas opposer le low-code, le no-code et le pro-code et favoriser la complémentarité dans le cadre d'une répartition des rôles adaptée. Une application low-code déployée auprès de 80% des salariés a-t-elle vocation à être maintenue par un développeur métier ou au contraire doit-elle être confiée à la direction informatique ?» Alors Alain, moi c'est l'une des toutes premières fois que j'entendais parler de ce terme-là, hein, citizen developer. C'est un sujet que je trouve vraiment très intéressant parce que justement ça pose la question de la prolifération de la technologie, de la place des outils et de la technologie au sein des organisations auprès de gens qui ne sont pas codeurs, qui ne sont pas développeurs, qui ne sont pas nés justement dans ce milieu-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, si j'en reviens à la recommandation principale, au constat principal des managers qui disent oui, il faut ce genre de profil de plus en plus, est-ce que c'est un avis que tu partages ou pas forcément?
Moi, je pense effectivement que c'est aussi l'avenir. Donc on va un peu décoder, tu vois, on va décoder le low code, pro code, no code. au fond, moi je vois ça plutôt comme quelque chose de beaucoup plus graduel. Coder dans les années 70, c'était un enfer. Tu avais des cartes perforées, après il fallait que tu fasses du microprocesseur, tu avais des langages qui étaient vraiment incompréhensibles, imbitables. Puis petit à petit, on est monté de plus en plus dans les couches hautes, jusqu'à arriver à ce que, finalement, il y a des gens aujourd'hui qui font du code sans le savoir. Quand on est dans Excel, qu'on fait une somme, et qu'on fait une petite macro, un truc rapide comme ça, c'est du code. Du code un peu écrit, mais pas trop. Quand on commence à faire du marketing automation, tu sais, hop là, ouais, quand un mec remplit un formulaire, là, du coup, s'il a tel champ, alors je fais ci, je fais ça, oui. Avec des Zapier, des IFTTT, tous ces trucs-là, on est dans le low no-code, tu vois. Donc, en fait, à un moment donné, simplement, c'est que soit, en fait, les usages, à un moment donné, on a besoin d'automatiser. Donc, en fait, d'un côté, on a de plus en plus de data, de plus en plus de besoin d'automatisation. Puis, au milieu de tout ça, tu as envie de mettre de l'IA qui vient automatiser. OK. Donc, soit, effectivement, tu as des usages qui sont mainstream, un peu comme, je sais pas, moi, dans la vraie vie, c'est la voiture. Bah, la voiture, c'est un truc mainstream, donc tu as des constructeurs de voitures. Et tu prends une voiture et tu vas pas t'emmerder à faire une voiture, tu vois. Mais il y a plein de trucs qui sont pas mainstream. Et dans ces cas-là, comment tu fais? Et c'est là où on a besoin de tous ces citizen développeurs, en fait. Parce qu'eux, ils sont métiers, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et les petits usages à faire, les petites automatisations, il n'y a pas un gros outil qui permet de le faire. C'est trop compliqué. C'est pas non plus, ce serait pas cool de garder justement tout faire à la main. Donc, bah, il faut faire entre les deux, tu vois. Et bien ça, c'est effectivement, à mon avis, ce que permettent aujourd'hui tous les outils no-code, alors low-code. Alors, encore une fois, no-code, low-code. No-code, c'est que tu as vraiment l'impression de ne pas faire de code. Tu vois jamais un if, un truc comme ça. Low-code, c'est qu'à un moment donné, tu vas juste écrire un peu de code, mais il est tellement contraint avec des trucs autour que c'est facile à faire, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui peut l'écrire. Et pro-code, c'est qu'au contraire, on te dit, bah, fais du code, c'est bien, c'est super, etc. Parce que le code reste quand même ce qui permet de produire des choses. Bon. Un peu les trois grandes familles. Et encore une fois, c'est très continu tout ça. Parce qu'à l'intérieur du pro-code, tu as des gens qui vont trouver que certains font du low-code, quoi. Il y a des trucs, des générateurs de code quand on fait du front. Enfin, tu vois, après, c'est à chaque fois, on trouve quelqu'un qui est plus pro-code que soi, quoi. Bref, je reviens sur le besoin fondamental. C'est un besoin, tout simplement, d'aller vite. Parce que si tu commences à attendre l'outil magique mainstream, bah, tu attends 10 ans. Pendant 10 ans, tu fais quoi sur le fait que toi, tu as besoin de faire un truc que personne n'a fait, tu vois, parce que tu es nouveau, parce que tu es en train d'inventer des choses, tu vois. Nous, par exemple, tu vois, on a notre stratégie We Are Media. Alors, on fait des médias, on a des trucs un peu partout. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plus ou moins automatisé, plus ou moins à la main. Il n'y a pas aujourd'hui un outil qui te dit « Ah, tu veux devenir un média? Tiens, voilà, achète cet outil, ça 10 € par mois par utilisateur, tu vois. » Parce que l'usage, il n'est pas encore là. Et bien, pendant tout ce temps-là, il faut qu'on fasse justement du low-code, no-code. Or ça s'appelle le progrès, l'invention, l'innovation. Et plus on les met dans la main des métiers, plus les gens sont créatifs. Tu vois, l'exemple que je pourrais donner, c'est bah, tu vois, les outils de productivité ou de créativité, hein, Photoshop, tu le mets dans la main de gens qui sont des designers et te font des trucs de dingue. Voilà. Les trucs 3D avant, c'était les trucs qu'il fallait développer pour avoir des trucs, des sphères, tout. C'était pas très beau. On a mis ça dans la main des créatifs avec des outils no code, low code, et ça te produit des mondes virtuels 3D où les gens qui font des films, incroyables, tu vois. Donc voilà, voilà ce qui va arriver dans toutes les boîtes, c'est qu'à un moment donné, ces fameux citizen developers vont arriver. Alors moi, je les appelle les cyborgs, c'est moins joli peut-être. C'est-à-dire que c'est l'idée que c'est des gens métiers, tu vois, ils peuvent être du market, ça peut être des sales, ça peut être des gens consultants, ça peut être des dirigeants, des DAF, enfin, qu'importe les métiers, tu vois. Mais ils n'ont pas peur de faire un peu de code, de parler à une machine qui va automatiser des trucs, qui voit bien. Et surtout, ils ont une capacité de conceptualisation. Parce qu'en fait, pour bien automatiser, il faut conceptualiser. Ah, ok, j'ai mes factures ici. Ah, d'accord, je veux automatiser le fait que j'envoie un mail à mes clients, mais que s'ils n'ont pas payé, je renvoie un truc dans mon channel Jamespot à mes consultants CSM pour qu'ils rappellent en première instance. Et si j'ai pas, personne répond, alors en deuxième truc, j'envoie une lettre recommandée. Tu vois le genre de truc ? Ce truc-là, c'est très difficile à avoir un outil qui fait tout ça. Parce que selon quel outil de communication, comment s'organiser tes équipes commerciales, etc. Bon, bah là, tu vas faire avec du no-code un petit process sympa et tout d'un coup, tu vas gagner un temps fou parce que c'est la fameuse charge mentale. Tu n'as plus à te soucier de ça. La machine s'en occupe pour toi. Et voilà. Et ça, c'est quand même magnifique. Donc, du coup, oui, à ces citoyens développeurs, ça va vraiment être, à mon avis, une croissance de plus en plus. Et au fond, moi, je le vois déjà là, tu vois. Les gens qui font du market, moi, je le vois chez nous, hein, les gens qui font du market aujourd'hui, ils savent faire l'automation qu'il y a 10 ans, entre guillemets, que les devs chez nous étaient capables d'expliquer aux gens du market, tu vois. Donc, tu as aussi, tout simplement, une culture qui rentre, tu vois. Les jeunes générations, tout simplement par acculturation, sont, pour certaines, il y a des cyborgs, et ceux-là, bah, ils font des trucs de dingue.
C'est un peu la rencontre idéale entre justement le métier, celui qui connaît son métier, les connaissances par rapport à tout ça, qui sait justement projeter ce dont il a besoin, et la technologie, l'accessibilité, que pendant très longtemps on n'a pas eu.
Exactement, mais longtemps ça a été séparé. Par contre, n'ayons pas non plus l'autre fantasme qui est de dire le no-code, low-code remplacera tout le code. Parce que c'est comme si je te disais, ah bah tu sais, les planches et puis tous les vis de Leroy Merlin remplacent tous les objets de la Terre. Tu sais bien qu'à un moment donné, moi je pense, chez moi, j'aurais pu prendre l'exemple des meubles, je pense que c'est encore plus clair. Moi j'ai 80% des meubles qu'on a achetés tout faits chez moi. Tu vois, des trucs, hop, on les a installés en 2-2, c'était déjà fait, c'était déjà designé, tu vois. Et puis, il y a des endroits où on a mis là, tu vois, là où je suis, là dans mon studio, là, il y a une planche, là, c'est notre la planche de travail. Bah, ça a été fait spécifique, tu vois, on pouvait pas le faire. Et on a mis un évier dedans et c'est un évier spécifique. Tout ça, c'est la même logique. 80% de l'IT continuera à être du normatif géré par la DSI, produit par les éditeurs de logiciels ou des ESN. Voilà. Et 20% seront produits en no-code, low-code, et ce sera justement la partie de progrès, la partie d'innovation, la partie qui n'a pas été pensée, la partie qui fait qu'on change. Et quand, par contre, c'est bien installé et que tout d'un coup, on se dit « Ah bah ouais, bah voilà, il y aura des gens qui diront « Ah bah tiens, moi, je vais en faire un logiciel », et hop, tu vois, le cycle de la vie.
C'est beau.
Merci.
Le cycle de la vie, c'est très beau. Merci beaucoup Alain, je vois qu'on a dépassé les 30 minutes, on essaye toujours d'être un peu dans ces, sur cette durée-là. Je te propose de terminer avec le sujet mystère,
mais oui.
Classique sujet mystère. Alors pour cet épisode 40, j'ai choisi le défi 10 jours sans écran. Voilà, alors il ne s'agit pas un défi que je te lance personnellement Alain, hein, rassure-toi.
Tu veux me faire du mal.
Voilà, c'est pas un défi que je te lance, il n'y aura pas de rançon logiciel derrière, sois rassuré, tu ne vas pas recevoir une lettre de demande de rançon. Donc le défi 10 jours sans écran, c'est un dispositif qui a été déployé dans la belle ville de Bordeaux et qui incite simplement les parents à remplacer le temps d'écran de leurs enfants par d'autres activités afin d'améliorer la qualité de leur sommeil et aussi de resserrer les liens familiaux. Il s'agit de la 4e édition, hein, c'est pas quelque chose qui vient de sortir. La ville a mis en place ce dispositif pour la première fois en 2019 et elle a décidé de le répéter chaque année depuis 2022. En 2023, 90% des parents interrogés ont constaté les impacts positifs de ce défi. Il y a une enquête qui a été réalisée auprès des enfants en 2022 qui montre que 40% des enfants ont mieux dormi, 85% ont passé plus de temps à jouer et à discuter avec leur famille.
Ben oui.
Et 86% ont réduit leur temps d'écran. Donc, je précise que ça a été précisé que cette initiative a notamment pour finalité de permettre à chacun de se rendre compte de l'emprise que peuvent avoir les écrans dans notre vie quotidienne, sans pour autant les stigmatiser. C'est ça que j'aime beaucoup. Et de sensibiliser et outiller concrètement les familles pour réduire les temps d'écran au quotidien et en faire un usage mieux maîtrisé, adapté à chaque âge. Donc, j'ai choisi ce sujet parce que déjà, je trouve que l'initiative est très, très sympa. Il y a toujours, en fait, nous, on est très, quand on parle de numérique, on est très au niveau des organisations, hein, c'est très B2B, c'est très, c'est très business professionnel. Mais c'est vrai que quand moi je fais le travail de recherche éditoriale, il y a toujours ce sujet en filigrane de les enfants, tu vois, l'impact du numérique sur eux, comment est-ce qu'ils font pour gérer tout ça. Évidemment, du côté des nouvelles générations, ça apporte moult belles choses. Hein, voilà, justement, des générations qui sont acclimatées au numérique et qui ont une vision que les générations précédentes n'ont pas. Mais c'est vrai qu'au niveau des plus jeunes, il y a quand même cette question de comment est-ce qu'on gère en fait la relation au numérique. Et donc, je trouve que c'était justement intéressant de parler un peu de ça, sous cet angle-là, du moins. Voilà.
Eh bien, écoute, je te soutiens 100% dans l'approche. Sache que, tu vois, ma petite qui est au CP, ils font un défi pareil, mais plus light, tu vas voir. Mais quand ils vont en vacances, ils ont des défis à faire, tu vois, est-ce que tu as fait une sortie, est-ce que tu as fait un gâteau ou tu as préparé à manger, est-ce que tu as justement été faire un spectacle, enfin, des trucs un peu spéciaux. Et ils ont 3 jours dans les 15 jours de vacances à faire sans écran. Voilà. Et c'est, je trouve, une très très bonne initiative, tu vois, ça rejoint. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on minimise ce sujet. Les enfants ne sont pas comme les adultes en rapport aux écrans, c'est là où beaucoup de choses se jouent. Donc, ayons notre capacité d'éducation. Merci Benoît d'avoir mis ce sujet, effectivement, B2C. Mais écoute, on peut se permettre, on est aussi des citoyens. Vu qu'on était des citizen développeurs, on peut être des citizen tout court.
Exactement, c'est toujours toujours. Puis on parle du numérique aussi au niveau social et sociétal. Hein. C'est toujours intéressant de parler du point de vue des organisations, mais le numérique, ça concerne pas que les professionnels, hein, loin de là. Donc voilà, j'avais à cœur de vous partager ce petit sujet. Écoute Alain, c'est la fin de cet épisode.
Mais c'est la
déjà,
fin.
J'ai envie de dire, comme d'habitude.
Mais oui, ça va vite. C'est pour ça, ouais, 36 minutes là, je vois effectivement là, il faut qu'on rende l'antenne.
Exactement.
De nos auditeurs nombreux, de plus en plus nombreux, tu me disais d'ailleurs.
Ouais, de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à suivre nos différentes aventures numériques. On est très contents. C'est toujours un plaisir justement de vous partager ces différents sujets d'actualité, de vous montrer un petit peu justement comment le numérique français se construit au fur et à mesure. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout pour ce nouvel épisode d'Au-delà du live. On espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes d'Au-delà du live et à vous rendre sur notre chaîne Les Voix du Digital, les Voix VOIX, je précise, sait-on jamais, pour découvrir nos autres podcasts. Vous y trouverez des entretiens, des échanges, des rencontres et toujours du décryptage des différentes actualités, notamment avec Alain et l'émission Bonjour les Spotters. Alain, merci encore et toujours de m'avoir suivi pour cet épisode. C'est toujours un plaisir de traiter l'actualité du numérique avec toi. Merci à vous, chers auditeurs, encore une fois, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Rendez-vous le mois prochain pour le nouvel épisode d'Au-delà du live. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.